Ce matin, je vais vous parler d'une autre femme. Je vais vous parler de la femme de Samarie, la Samaritaine. Et on va le faire aussi en deux parties, parce que je suis encore réinvité à venir une autre fois d'ici à la fin de l'année. Donc, c'est au chapitre 4. Et au chapitre 4, eh bien, Jean nous présente, Jésus comme étant quelqu'un qui aimait ceux qui étaient perdus. En commençant par Nathanaël au début de son ministère, jusqu'au malfaiteur sur la croix à la fin de son ministère, nous voyons Jésus occupé à amener les pécheurs à se tourner vers lui. Il se souciait sincèrement des gens qui étaient perdus et il était toujours prêt à tendre la main à tous ceux qui croisaient son chemin, quel qu'en soit le prix à payer. Et cette rencontre avec la Samaritaine, cette femme samaritaine que nous nous apprêtons à examiner, ne fait pas exception, bien-aimé. Dans les versets que nous allons voir ce matin dans la première partie, nous pouvons voir Jésus faire ce qu'il fait le mieux, amener les pécheurs à être sauvés. Jean écrit au verset 3 que Jésus avait décidé de quitter la Judée et retourner en Galilée. Pour aller, il devait traverser la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il était environ midi. Moi, ce qui me bénit dans tout ça, c'est que dans ces premiers versets, Jean met en lumière la compassion et l'humanité de Jésus. Même s'il était Dieu, il était aussi 100% un être humain, qui vivait des épreuves et qui faisait parfois face aux mêmes problèmes que nous rencontrons dans la vie. Mais il démontre par-dessus tout qu'il se souciait aussi de ceux qui étaient perdus. Jean nous présente ici un Jésus qui a soif et qui est fatigué. C'est surprenant quand même. On pourrait dire, mais c'est un être faible. Il veut nous montrer aussi qu'à travers tout ça, c'est que c'est vrai qu'il était 100% Dieu, mais dans son 100% être humain, eh bien, il a traversé les mêmes épreuves, il a traversé les mêmes combats, il a traversé les mêmes tentations que vous et moi. Et si on a cette espérance vivante à travers la résurrection de Jésus ce matin, bien-aimé, c'est parce qu'il n'a jamais péché. Voilà. Contrairement à nous tous, contrairement à tous les hommes qui sont venus sur la terre, il n'a jamais péché. S'il avait péché, eh bien, aujourd'hui, nous serions sans espérance. Mais Dieu a confirmé que son sacrifice était parfait, en le ramenant de la mort à la vie. Et un jour, bien-aimé, eh bien, ça sera la même chose pour nous. Nous entrerons dans sa présence. Et Billy Graham avait dit ceci lors d'une campagne d'évangélisation. Lorsque le chrétien meurt, il commence à vivre. Et c'est vrai, bien-aimé. Quand nous mourons, nous commençons à vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu. Sur cette nouvelle terre et ce nouveau ciel que Dieu va être en train de nous préparer. Et c'est bien que notre frère a lu tantôt Apocalypse chapitre 3, verset 20, parce que non seulement il est écrit que c'est vrai que Jésus frappe à la porte, mais aussi il nous révèle ce qui nous attend pour le futur, pour l'éternité. Il nous dit non pas que nous allons seulement vivre dans la présence de Dieu, mais il nous dit aussi que nous allons régner avec Jésus-Christ. Et moi, ce que je trouve intéressant, on n'a pas lu le reste, mais Jésus aussi nous promet que, mon frère l'a lu tantôt, que de la même façon qu'il est assis sur le trône de son Père, de la même façon, il va nous permettre de s'asseoir sur son trône, bien-aimé. C'est extraordinaire. Vous imaginez ça? On ne parle pas du roi de Belgique, ici, le roi des Belges. On ne parle pas du président des États-Unis, bien-aimé. On parle de celui qui a créé toute chose, qui vit depuis toute éternité, qui s'est fait homme dans la personne de Jésus, qui va dire, Jacques, viens t'asseoir sur mon trône, Jacques. Le président des États-Unis ne serait jamais rentré dans le salon ovale. Le roi des Belges ne me laisserait jamais asseoir sur son fauteuil. Mais le Seigneur Tout-Puissant qui dirige toutes choses, écrit dans Apocalypse chapitre 3, Jacques, quand tu seras dans ma présence, quand tu vas vivre avec moi pour l'éternité sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, où dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de lumière parce que ma gloire va éclairer toutes choses, eh bien, tu pourras t'asseoir sur mon trône comme moi, je peux m'asseoir sur le trône de mon Père. Bien-aimé, c'est pas extraordinaire quand vous pensez à ça? Mais c'est extraordinaire, bien-aimé. Et il est venu sur la terre, sur cette grande poubelle, cette terre remplie de pécheurs, remplie de tout ce qu'on peut imaginer qui est contraire à la parole de Dieu. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et ici, Cette femme de Samarie, Jean nous présente ici un Jésus qui a soif et qui est fatigué. Il veut nous rappeler que Jésus connaît votre douleur et votre épuisement physique et qui s'identifie aussi aux souffrances que vous ressentez dans votre corps. Et au verset 7 et 8, Jean dit ceci, « Une femme de Samarie vient puiser de l'eau et Jésus va lui demander de l'eau. « Donne-moi à boire, lui dit-il. » C'est en français et en anglais, c'est comme s'il disait, « Écoute, tu n'as pas le choix, tu vas me donner à boire. » Mais dans le texte grec, c'est beaucoup plus différent. C'est, « S'il vous plaît, est-ce que vous voudriez me donner de l'eau, s'il vous plaît, à boire? » Et Jésus était seul, car ses disciples étaient allés à la ville pour aller acheter de quoi manger. Et cette femme de Samarie que nous retrouvons dans ce texte, bien-aimée, est une femme qui est blasée et épuisée par la vie, comme beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui. Elle avait fait le tour de ce que la vie lui offrait et n'avait récolté que déception sur déception avec les hommes. Elle avait essayé de boire à tous les puits qui s'étaient trouvés sur son chemin et elle les avait tous abandonnés, aussi assoiffée qu'elle l'était à son arrivée. Et puis un jour, Jésus se trouve tout près de la ville qu'elle habite. Elle le rencontre et lui dit qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une autre vie qu'elle peut vivre. Une vie qui la libère des fardeaux et des problèmes qui font partie de son quotidien. Bien-aimée, l'amour véritable, joint les actions aux bonnes intentions. Et c'est ce que Jésus va faire ici. Jésus va donc rencontrer cette femme blasée, prendre du temps avec elle, cette femme qui est blasée, déçue et endurcie par tous les mensonges, déversée par les différents courants de pensée de ce monde, pour lui offrir une qualité de vie que ce monde ne peut pas lui offrir, et lui offrir à boire de l'eau vive, de l'eau vive au puits de la foi. Qu'est-ce que c'est l'eau vive? Eh bien, l'eau vive, c'est recevoir le Saint-Esprit. L'eau vive, eh bien, c'est la nouvelle naissance. Il veut lui donner une nouvelle vie qui va commencer maintenant, mais qui ne se terminera jamais, qui va transcender ce monde quand le Seigneur va lui dire, « Écoute, ta présence sur la terre est maintenant terminée. Viens, ma bonne servante, entre maintenant dans la présence de ton maître. » Cette vie, elle va se poursuivre. Mais cette vie, elle est extraordinaire, bien-aimée, parce qu'elle n'a pas de fin, bien-aimée. Maintenant, je vais vous dire pourquoi c'est un de mes textes préférés, la femme samaritaine. On va continuer. Je ne vais pas vous vendre la mèche tout de suite. Mais je vais vous expliquer par après pourquoi c'est un de mes textes préférés. Lorsqu'elle boit l'eau que le Seigneur Jésus lui offre, elle découvre qu'il y a beaucoup plus que de l'eau dans ce puits. Bien-aimée, il est bon de se rappeler qu'à l'époque de Jésus, les hommes travaillaient au champ, tandis que les femmes demeuraient à la maison et veillaient à la propreté de celle-ci. Une de leurs nombreuses tâches quotidiennes consistait à aller chercher de l'eau au puits. Il était donc courant de voir les femmes se retrouver au puits pour aller puiser de l'eau et en profiter aussi pour partager entre elles les dernières nouvelles qui circulaient dans le village. Ce qui est surprenant ici, c'est d'apprendre que cette Samaritaine arrive à midi pour puiser de l'eau, alors qu'habituellement, lorsqu'une femme venait puiser de l'eau, c'était soit tôt le matin quand le soleil commençait à se lever, ou au début de la soirée lorsque la fraîcheur du soir commençait à s'installer, afin d'éviter les chauds rayons du soleil et avoir un peu de temps pour parler avec les autres femmes. La question que nous pouvons nous poser maintenant, c'est pour quelle raison cette femme était-elle venue puiser de l'eau alors qu'elle savait très bien qu'il n'y aurait personne? Et lorsque vous lisez le texte que nous avons devant les yeux, vous apprenez qu'elle n'avait pas une bonne réputation. Il est écrit au verset 18 qu'elle avait eu 5 maris et l'homme avec qui elle vivait n'était pas son mari. Elle venait donc puiser de l'eau sur l'heure du midi parce que non seulement elle ne voulait pas faire face au regard du jugement des autres femmes, qui ne manquerait sûrement pas encore une fois de l'interroger sur sa façon de vivre, mais aussi parce qu'elle voulait éviter de répondre à celle qui ne manquerait pas de lui faire des remarques qu'elle ne comprenait pas et qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans le péché. Voilà pourquoi elle préférait venir à l'heure du midi, alors que le soleil était si chaud et écrasant. Bien-aimé, il en est encore de même aujourd'hui. Vous rencontrez des gens qui ressentent de la honte à cause de certains gestes qu'ils ont commis dans le passé et qui ont parfois fait à la manchette des journaux. Et depuis, ils sont tellement honte que lorsqu'ils croisent le regard des gens, ils se sentent tellement jugés et condamnés qu'ils vivent isolés et retirés de la société. Mais le Jésus que je connais, moi, lui n'est pas venu pour juger ni pour condamner qui que ce soit. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et à travers la proclamation de l'Évangile, il a le pouvoir de bouleverser nos vies, car l'Évangile est la puissance dont Dieu se sert pour sauver quiconque croit. Vous êtes amen à ça? Il n'y a rien d'autre que l'Évangile, la bonne nouvelle qu'on doit propager, bien-aimé. Voilà, voir Jésus aller vers cette femme nous rappelle que nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à aller aussi vers les gens perdus de ce monde. C'est l'ordre de mission que Jésus a donné non seulement à ses disciples, mais à tous ceux qui viendraient après eux. Verset 19-20, dans Matthieu 28, 19-20, vous connaissez bien, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à observer ce que Jésus nous enseigne dans sa parole. » Si nous voulons savoir comment partager l'Évangile, ce message est pour nous. Voilà pourquoi ce passage dans Jean chapitre 4 est un de mes passages préférés, parce que le Maître nous montre comment avoir un contact, prendre un contact avec les gens, comment aborder le sujet qui pourrait les intéresser. Et ici, c'est pour ça qu'on va voir une première partie, mais la dernière partie, on va voir comment le Maître nous montre comment nous pouvons les amener au salut, comment nous pouvons les amener à faire connaître Jésus-Christ. Moi, je crois aujourd'hui, l'Église, ça doit faire peut-être 50 ans qu'elle n'a pas évangélisé. On a quand même vécu les 50 dernières années à faire confiance à des grosses campagnes d'évangélisation. Et on a oublié finalement que c'était à l'Église que ce ministère avait été donné. Je ne crois pas que les chrétiens ne veulent pas évangéliser. Je pense que les chrétiens ne savent pas comment évangéliser. C'est ça qui est toute la différence. On a une génération de chrétiens qui n'a pas appris à transmettre l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et il suffit juste de remettre les bases aux bonnes places. Et pour que nos frères et sœurs en Christ reprennent confiance pour, quand ils rencontrent des gens, eh bien, être capables de les aborder, prendre l'initiative de les aborder, prendre l'initiative aussi de connaître ces gens-là et aussi de leur parler de l'Évangile. Vous savez, moi, j'ai été un dur à cuire pour entendre l'Évangile, et ça m'a pris la rencontre de six chrétiens pour qu'un jour je me réveille et que je réalise que mon seul salut se trouve en Jésus. Et parce que c'est un petit chrétien, un petit bout d'homme, là, pas plus haut que trois pommes, comme on dit au Québec, qui me paraissait inoffensif, qui a osé me parler, ouvrir la bouche pour me parler finalement de ce merveilleux message du salut qui se trouve en Jésus. Si cet homme-là n'avait pas ouvert la bouche, je ne serais pas en Belgique aujourd'hui. Je n'aurais pas tout abandonné pour venir en Belgique et annoncer l'Évangile aux Belges. Et c'est pas seulement un devoir pour moi, mais c'est aussi un devoir, bien-aimé, pour vous. Nous aurons à rendre compte de ce que nous aurons fait, le message, le trésor que Dieu nous a laissé dans ses mains. Rappelez-vous la parabole des trois serviteurs. Le dernier, Jésus le sermonnait pas à peu près. Alors, c'est important pour nous, on a un beau message, c'est important pour nous de le transmettre, ce message-là. On entend toutes sortes au niveau des gens qui passent à la télévision, ceux qui font des one-man shows, là, surtout sur la comédie. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de comique dans ce qu'ils disent. Mais finalement, ils n'ont pas peur de dire toute leur saleté devant la télévision. Ils n'ont pas peur de salir les noms de n'importe qui. Et pourtant, eux, ils réussissent à gagner leur vie avec ça. Nous, on n'est pas là pour gagner notre vie, on est là pour gagner des âmes. Et on est là pour gagner des âmes et partager finalement cet amour que nous avons reçu de Dieu et qui habite en nous. Alors, comme je l'ai dit, si nous voulons savoir comment partager l'Évangile, ce message est pour nous, car dans ce chapitre, Jésus nous montre à travers cette rencontre avec la femme samaritaine l'approche que nous devrions avoir avec les gens si nous voulons être capables de leur parler de Jésus. Maintenant, je ne suis pas ici pour vous faire la leçon, je ne suis pas ici pour vous condamner, je vais vous apporter mes expériences personnelles. Et moi, si je suis capable de faire ça, il y a n'importe qui ici, n'importe qui est capable de faire la même chose. Il s'agit juste de... Vous savez, pour avoir de la compassion, là, il faut avoir d'abord la passion. La compassion ne vient pas avant, la compassion, elle vient après. Il faut être passionné pour le Seigneur. Il faut être passionné, avoir la même passion que Jésus avait, la même vision que Jésus avait quand il est venu sur la terre. Voir ces gens-là qui s'en vont en enfer. Voir ces gens-là qui s'en vont en enfer, bien-aimés. Et un des signes pour voir si on a une compassion, on a une passion pour ces gens-là, c'est quand on prie pour nos enfants, quand on demande à l'Église de prier pour nos enfants pour qu'ils acceptent le Seigneur, pour qu'ils viennent à Christ, est-ce que nous, dans notre temps de prière, on prie pour que Dieu puisse sauver les enfants à l'extérieur, les enfants du monde, bien-aimés? Comment penser que Dieu peut exaucer nos prières, d'amener nos enfants, de sauver nos enfants, si on n'est pas capable de prier en même temps pour qu'il puisse sauver les enfants qui sont à l'extérieur? La Bible, elle est claire à plusieurs reprises. La Bible nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il aime vos enfants, mais il aime autant les enfants du monde, bien-aimés. Et il veut leur éviter toutes sortes d'abus. Et finalement, Dieu vous remet ça entre les mains. Dieu dit, je les aime autant que je vous aime. Alors, parlez-là, partagez ma parole. Et ici, rappelons qu'il y a au moins quatre groupes de personnes que nous devons chercher à atteindre. Il y a ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, et la Samaritaine faisait partie de ce premier groupe. Les Samaritains n'avaient jamais entendu l'Évangile parce qu'ils n'avaient aucun contact avec les Juifs. Ils se détestaient tellement les uns les autres. Eh bien, ils n'avaient aucun contact avec les Juifs qui évitaient même de traverser la Samarie. Et sachant que les Samaritains n'avaient jamais encore entendu le message de l'Évangile, Jésus va faire un détour pour aller leur partager le message qui transforme les vies. Bien-aimés, lorsque vous regardez autour de vous, vous rencontrez beaucoup de gens rejetés, des gens qui venant de différents pays et pratiquant différentes religions. Et s'il est vrai que vous et moi devons développer une vision et une passion pour la mission à l'extérieur de notre pays en soutenant l'œuvre missionnaire, l'Église locale ne doit pas oublier de développer une vision et une passion pour ceux qui habitent dans ce pays, dans cette ville et dans ce quartier. Jésus avait à cœur le salut des hommes qui n'avaient jamais entendu l'Évangile. Voilà pourquoi il est venu annoncer la bonne nouvelle à cette femme bien-aimée. Il savait qu'en recevant l'Évangile, la Samarie connaîtrait un réveil. Et bien-aimé, il ne prendra pas la meilleure, au niveau quotient intellectuel, celle qui avait le plus de capacité au niveau spirituel. Non, il va prendre celle qui avait probablement la pire réputation en Samarie. Celle qui était isolée des gens. Et il va en faire un outil entre ses mains pour faire un réveil en Samarie. Bien-aimé, Dieu, là, ce n'est pas sur vos capacités qui comptent pour amener le monde à Seigneur. C'est que nous puissions nous appuyer sur ses capacités à lui pour amener les gens à Jésus-Christ. Et souvent, c'est ça l'erreur qu'on fait. Avec Dieu, il n'y a pas de trophée à remporter. Il y a déjà tout remporté à la croix, bien-aimé. Et c'est important, c'est vraiment important que nous puissions saisir ça. Je vous dirai pas où j'étais la semaine passée parce que je dois protéger le nom de la personne et aussi l'Église où c'est. La semaine passée, je suis allé prêcher dans une église où, après le culte, on m'a présenté une jeune musulmane de 14 ans qui était habillée comme les musulmanes. Et on me l'a présentée, on était content de me présenter cette jeune fille-là. Pourquoi? Parce qu'on m'a rappelé que cette jeune fille-là, si elle venait à l'église maintenant, c'était en cachette de ses parents. Et qu'elle avait été amenée au Seigneur par une jeune chrétienne de cette église-là qui avait 13 ans. Et qui, dans la cour de récréation de l'école, lui avait parlé de l'Évangile. Et cette jeune musulmane a pris une décision pour le Seigneur. Et ça me bénissait parce qu'elle tenait sa Bible comme si c'était un trésor qu'elle tenait, un coffre à trésor qu'elle tenait dans ses mains. Elle n'en avait jamais eu avant. Tout ce qu'elle avait eu, c'était le Coran. Et elle le tenait vraiment sur son cœur. Ça me fait penser à la parole de David qui dit « Je serre la parole de Dieu contre mon cœur ». Et elle le serrait contre son cœur. Et il y avait cette joie là, du salut dans son visage qui transpirait. Moi, je trouvais ça magnifique. Une jeune fille de 13 ans, bien-aimée, qui nous donne la leçon. Moi, c'est ce que j'ai pensé. J'ai dit « Hey, elle me donne une bonne leçon, cette fille-là, cette jeune fille. » Écoutez, elle a pris un risque. Elle a parlé de l'Évangile. Cette jeune fille-là aurait pu aller voir la directrice de l'école ou le directeur de l'école et dire « Écoutez, il y a quelqu'un qui fait du prosélytisme dans la cour ici. » Et elle aurait pu se plaindre à ses parents. Ça aurait pu aller plus loin. Mais cette fille-là, elle avait tellement un fardeau. Probablement, elle a sûrement pris, on va le voir ici, elle a pris le temps de connaître la jeune fille. Elle a pris le temps de connaître ses opinions. Elle a connu le temps de prendre quel était son arrière-plan religieux, si elle pratiquait vraiment ou pas. Et finalement, écoutez, après ça, elle a parlé de son sauveur bien-aimé, la personne de Jésus-Christ. Non seulement nous devons chercher à atteindre les gens qui n'ont jamais été évangélisés, mais nous devons également atteindre un deuxième groupe de gens, et ce sont ceux qui pratiquent le péché. Non seulement la femme samaritaine faisait partie du premier groupe, mais elle n'est pas chanceuse, elle faisait aussi partie du deuxième groupe. Cette femme avait eu 5 maris et elle vivait avec un 6e mari qui n'était pas le sien. Il faut être bon de rappeler qu'à l'époque de Néhémie, il y avait une division et un groupe de Juifs avait quitté Jérusalem pour aller établir leur lieu de culte sur le mont Gérizim à Samarie, en se concentrant sur l'enseignement des 5 premiers livres de la Bible. Alors, les Samaritains, en fait, il y a eu une division au niveau religieux, et ces Samaritains-là étaient partis, ils avaient quitté Jérusalem pour aller s'installer en Samarie. Mais par contre, ils n'avaient pas abandonné la parole de Dieu, ils mettaient en application uniquement les 5 premiers livres de la Bible. Cette Samaritaine, de par son arrière-plan religieux, savait très bien que quelqu'un qui vivait avec quelqu'un qui n'était pas son mari, eh bien, vivait dans le péché. De plus, nous savons qu'elle avait divorcé 5 fois. Et dans quelles circonstances avait-elle divorcé, nous ne savons pas, mais nous savons que le divorce n'est jamais facile pour qui que ce soit. Un bien-aimé, il est souvent précédé, voire même accompagné par des drames, et il laisse souvent avant, pendant et après le divorce de nombreuses blessures, autant chez les hommes, les femmes et les enfants. Mais voilà, cette Samaritaine avait décidé qu'elle en avait assez du mariage. Elle s'était probablement dit en elle-même, « Si c'est contre la loi, même si le monde ne le permet pas, je ne veux rien savoir de ce que les gens vont penser. Dorénavant, je vais cohabiter avec l'homme de mon choix. » Comment réagirions-nous si nous nous retrouvions devant quelqu'un vivant dans l'immoralité, bien-aimé? Il est fort possible que nous chercherions à éviter cette personne pour ne pas être associé avec elle. Mais pas Jésus. Pas Jésus. Jésus ne choisissait pas qui il devait sauver. Quand une personne se présentait devant lui, eh bien, je suis convaincu qu'il priait le Père Céleste pour que des portes s'ouvrent. Et dans son 100% homme, il prenait le temps de connaître quelle personne était devant elle, et devant lui, et pour lui annoncer l'Évangile. Si nous pensons que certaines personnes ne peuvent pas être atteintes par l'Évangile à cause du péché qu'elles pratiquent, alors vous et moi, nous avons oublié que l'amour de Dieu peut pénétrer le cœur de n'importe quel pécheur. Chaque pécheur, chaque personne qui est ignorée et négligée par la société a besoin de Jésus. C'est la raison qui l'a amené dans le monde. Ces gens sont notre champ missionnaire et quand nous voyons se commettre autant de violences et de crimes crapuleux, cela devrait susciter davantage en nous ce fardeau d'aller vers ces gens en leur annonçant l'Évangile en Jésus-Christ, qui seul peut transformer les vies et ramener l'ordre dans le cœur des gens de notre société. Permettez-moi de vous raconter. Moi, je suis un gars qui ne se mêle pas de ses affaires. J'ai le don de ne pas me mêler de mes affaires. Et moi, je trouve que les Belges, je trouve surtout que les chrétiens belges, là, se mêlent trop de leurs affaires. Vous n'êtes pas assez audacieux. Je vais donner un exemple. Je me promène avec mon petit garçon un matin. Il est à peu près 9h30 du matin. Et je vois que... Il tient la laisse du chien, voilà. Et je vois qu'il y a un pneu d'une Clio qui est en train de se dégonfler. Alors moi, je me suis dit, ben en tant que chrétien, si c'était ma voiture, je serais content que quelqu'un vienne m'avertir. Dire, écoute, je ne sais pas si c'est normal, mais votre pneu, il est presque à plat. Alors je vais sonner à une porte, quelqu'un avec qui j'avais déjà parlé. Et je lui dis, écoute, est-ce que ce serait votre voiture? J'ai dit, parce qu'il y a un pneu qui est dégonflé. J'ai dit, c'est quelle voiture? J'ai dit, une Clio. Ah, non, et c'est le deuxième voisin. Alors moi, je vais sonner. Je vais sonner chez ce deuxième voisin. Et il y a un monsieur qui me répond. Il est en caleçon et puis en camisole blanche. Caleçon blanc, camisole blanche. Et il est comme ça, il est penché. Puis, écoutez bien, c'est un non-chrétien. Hein? C'est monsieur. Et il m'accroche par le bras. « Monsieur, c'est Dieu qui vous envoie. Je suis en train de mourir. » Et là, il enlève ses mains et il s'en pissait. Il avait été opéré pour l'estomac et ça s'était déchiré. Et il me disait, « Écoutez, j'ai pas de GSM avec moi. » Il dit, « C'est-tu possible de faire venir une ambulance pour qu'on monte tout de suite à l'hôpital? » Il dit, « Je vais mourir, quoi. » Et il y avait sa pauvre mère qui était dans la maison, qui avait 85 ans, qui ne pouvait pas rien faire. Et il est monté à l'hôpital, et moi, j'ai attendu quelques semaines. Et quand il est revenu, eh bien, j'ai sonné, en fait, et j'ai appris par la mère qu'il était revenu à la maison. Et je suis allé, j'ai pris un temps avec lui. J'ai pris un temps avec lui, et puis finalement, de fil en aiguille, eh bien, j'ai appris à le connaître un peu plus, à savoir comment je pourrais l'aborder, la mère aussi. Et c'est un monsieur qui a plus de 60 ans. Alors, à un moment donné, il m'appelle à la maison, il dit, Jacques, il dit, écoute, j'ai une bouteille de champagne, mais il dit, j'ai pas personne pour fêter mon anniversaire. Ben, j'ai dit, écoute, il n'y a personne qui m'a invité. OK. Ben, j'ai dit, écoute, je vais t'inviter, tu viens à la maison. Et moi, vous savez, moi et la cuisine, c'est... je préfère la cuisine de mon épouse que la mienne. Mais j'ai acheté du chinois, et puis voilà, des mets chinois, puis j'ai préparé quelque chose. Et puis il est venu à la maison, et puis il était vraiment content que pour une personne que ça faisait pas plus que 2 mois qu'il connaissait, que je puisse avoir pris ce temps de préparer ce repas et de l'inviter à la maison. Et là, il commence à s'ouvrir. Moi, je ne me mêle pas de mes affaires, mais je pose des questions aussi, qui sont pas nécessairement de mes affaires. Mais c'est pour apprendre à connaître la personne que j'ai devant moi, comme Jésus avec la Samaritaine. Et il me dit à moi, il dit, j'y parle l'Évangile. Et il me dit, ouais, mais moi, je suis un homosexuel. Ben, j'ai dit, t'es une personne comme les autres. Hein. Il dit, oui, mais il me dit à moi, et là, tout de suite, il me sort la phrase, hein, oui, mais Dieu est amour. J'ai dit, Dieu est amour, mais Dieu est aussi 3 fois saint. J'ai dit, Dieu n'accepte pas ce que tu fais, mais t'accepte tel que tu es. Et Dieu est capable de te transformer, Dieu est capable de te changer. Et finalement, de fil en aiguille, eh bien, rencontre après rencontre, il a pris une décision pour le Seigneur. Maintenant, je ne suis pas convaincu que cette décision-là, elle l'a amené à passer de la mort à la vie, c'est-à-dire à la nouvelle naissance. Je pense que c'est plutôt au niveau des sentiments uniquement. Mais je continue à prier pour lui. Et cette démarche, bien-aimé, il faut que vous soyez plus audacieux. Il faut oser aborder les gens. Il faut oser vous mêler de ce qu'ils ne vous regardent pas. C'est important. Si on attend que les gens viennent nous trouver et qu'ils nous disent, écoute, peux-tu me parler de Jésus? Ou peux-tu me dire ce que je dois faire pour être sauvé? Ou peux-tu m'expliquer s'il y a une vie après la mort? Les gens sont tellement préoccupés par autre chose présentement qu'ils vous aborderont jamais avec ça. Et cet homme-là, eh bien, écoutez, je n'ai même pas pensé à son homosexualité, moi. Moi, je me suis dit, le Seigneur n'accepte pas ce qu'il fait, mais par contre, cette personne-là, le Seigneur, il l'aime. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est vraiment important. Bien-aimé, on oublie une chose, hein? Il n'y a pas un péché qui est plus gros qu'un autre. Et quand on dit qu'on est sans péché, juste une mauvaise pensée, les mauvaises pensées rentrent dans la catégorie des péchés. Hein? Alors, c'est facile de les cacher, nos mauvaises pensées. Mais si ce matin, on avait eu la possibilité, par un pouvoir extraordinaire venant de Dieu, d'afficher toutes les pensées que nous avons eues durant la semaine, je serais peut-être tout seul, je ne serais même pas en avant, j'aurais dû sortir aussi, quoi. La salle serait vide ce matin. Dieu lit dans nos cœurs, bien-aimés. On peut avoir une mauvaise pensée contre un frère, contre une sœur. On peut avoir une mauvaise pensée contre notre femme, contre notre mari, contre nos enfants. Et ça, tout ça, ce sont des péchés, bien-aimés. Jésus a dit, car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à commettre l'adultère, à tuer, à voler, à mentir. Et tout, il fait une liste très longue. Mais ce que je veux vous amener avec ça, c'est non seulement nous devons chercher à atteindre les gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile et ceux qui pratiquent le péché, mais nous devons également chercher à atteindre un troisième groupe, ce sont les gens qui n'ont aucune espèce de spiritualité. Et dans ce groupe, nous rencontrons les antidéistes, un gros mot, antidéiste, mais ça veut dire simplement que ce sont ceux qui ne croient pas en un Dieu créateur. Et un autre de gros mot aussi, les antithéistes, que vous rencontrez souvent dans la rue, ceux qui ne croient pas en l'existence d'un Dieu qui aurait organisé sa création. Et il y a des gens que vous pouvez rencontrer qui non seulement ne manifestent aucun intérêt spirituel, mais qui n'ont aucune croyance spirituelle et qui en veulent encore moins entendre l'Évangile. Et cette femme samaritaine, bien-aimée, elle faisait partie de ce groupe. Je crois que lorsque vous avez vécu 5 divorces, il devient de plus en plus difficile de continuer à faire confiance en Dieu, voire même à croire en lui, bien-aimée. Et pourtant, même s'il peut nous arriver d'exclure ces gens en pensant que Dieu ne s'intéresse pas à eux, non seulement Dieu continue à aimer ces gens, mais il veut qu'ils entendent le message de l'Évangile. Et ça, c'est important pour nous. Bien aimé, l'Évangile. L'évangélisation, c'est un mendiant qui dit à un autre mendiant à trouver du pain. C'est ça l'Évangile, bien aimé. Nous avons trouvé le pain de vie. Nous sommes des mendiants qui sommes appelés à permettre aux gens de trouver ce pain de vie que nous avons reçu, bien-aimés. Jésus va donc se mettre au même niveau que cette femme pour qu'elle comprenne bien le message qu'elle veut non seulement qu'il entende, mais qu'elle saisisse au plus profond d'elle-même afin qu'elle reçoive ce message. Regardons dans un deuxième temps l'exemple à suivre pour partager notre foi et atteindre les gens lorsqu'une société a abandonné les valeurs de Dieu. Pour pouvoir être en mesure de communiquer avec cette femme, la première chose que Jésus va faire, c'est qu'il va d'abord prendre l'initiative d'aller à la rencontre de la femme samaritaine. Autrement dit, il va prendre la décision de passer à l'action et il devrait en être de même pour nous, bien-aimés. C'est un beau défi parce que ça nous permet de voir où nous en sommes rendus spirituellement parlant. Peut-être que nous nous évaluons peut-être un petit peu trop au niveau de notre vie chrétienne, de notre connaissance de Dieu. Et ça nous met au défi, ça. Ça nous met au défi. C'est facile de répondre par la loi. Jésus aurait pu répondre par la loi au bout de 3 jours de ministère, trousser ses manches, puis dire, « Père, rappelle-moi, il n'y a rien à faire avec ce monde-là. » Non. Jésus s'est rendu jusqu'au bout de son ministère, c'est-à-dire aller jusqu'à la croix. Et bien-aimé, les gens ont besoin d'entendre l'Évangile. Vous seriez surpris des miracles que Dieu peut accomplir à travers vous, bien-aimés. Vous vous sous-estimez. Pour le diable, vous n'êtes que des bons à rien. Mais pour Dieu, votre la valeur que vous aviez à ses yeux pour qu'il envoie Jésus, bien-aimés, vous avez une valeur inestimable. Dans l'Évangile de Jean, Jésus dit, « Le Père vous aime autant qu'il m'a aimé, dit Jésus. » Lui qui était sans péché nous dit que nous qui étions pécheurs, Dieu nous aime autant que lui. Vous vous imaginez, bien-aimés? Comme notre frère a dit tantôt, nous sommes incapables de comprendre pleinement la dimension de l'amour de Dieu. C'est humainement parlant, c'est impossible, bien-aimés, de comprendre ça. Des fois, il y a juste quelqu'un qui nous lance une petite phrase qu'on n'aime pas trop, puis on peut bouder pendant 3-4 jours. Heureusement que Dieu ne boude pas à chaque fois qu'on ne marche pas dans ses voies, bien-aimés. Heureusement que Dieu n'est pas fait comme nous. Heureusement que Jésus était fait autrement que nous. Ouais. Heureusement que Jésus avait une vision autre que la nôtre. Et quand on est de nouveau, bien-aimés, quand on est de nouveau, j'en ai parlé la dernière fois, la nouvelle naissance, c'est un miracle que Dieu fait. Ça vient d'en haut, ça ne vient pas de la terre. Et c'est ce que Jean explique dans le chapitre 1 aussi. C'est ce qui est né d'un être humain reste humain. Hérite de ce qu'il a, de son Père qui est terrestre. Mais lorsque, bien-aimés, nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'en haut, c'est ça, le vrai terme dans Jean, c'est naître d'en haut. Naître de Dieu, eh bien, bien-aimés, on reçoit ce que Jésus avait quand il est venu sur la terre. Bien-aimés, et le but que Dieu veut quand on est de nouveau, c'est qu'il nous donne les yeux de Jésus pour qu'on voit le monde comme lui les voyait. Il nous donne sa bouche pour que nous puissions parler comme lui parlait au monde. Et il nous donne ses oreilles pour que nous puissions entendre les cris des gens à l'extérieur qui sont fatigués, rendus à bout, usés par tout ce qui se passe dans le monde. Bien-aimés, vous connaissez le Seigneur. Eh bien, moi, en tant que chrétien, je ne sais pas comment les gens à l'extérieur font pour passer à travers ce qu'ils vivent depuis 3-4 ans, bien-aimés. On nous annonce des épidémies, pandémie par-dessus pandémie maintenant. Là, on est rendu avec la variole du singe. Et là, on vient d'en sortir encore un autre. Mais ça n'arrêtera pas, bien-aimé. Ça n'arrêtera pas. Parce que Jésus l'a prédit, bien-aimé. Hein? Je ne vous dis pas que Jésus revient demain. Mais quand vous lisez les Écritures, Matthieu chapitre 24, entre autres, Jésus dit, quand vous verrez ces signes arriver, sachez, bien-aimé, que je reviens bientôt. Sachez que ce sont le commencement des douleurs de l'enfantement. Nous sommes entrés, je suis persuadé que nous sommes maintenant entrés dans les douleurs de l'enfantement. Quand le Seigneur dit qu'il n'y aura jamais eu de peur autant que depuis la création du monde et qu'il n'y en aura jamais autant, on regarde, on commence à penser à des guerres nucléaires, bien-aimés. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais ils vont être une tension terrible, bien-aimés. Je ne veux pas vous faire peur ce matin. Je veux juste vous faire prendre conscience qu'on est peut-être la génération, l'Église qui sera peut-être enlevée, bien-aimés. L'Église qui connaîtra le retour de Jésus-Christ. C'est important pour nous. Nous sommes peut-être la dernière Église. C'est important. Il faut être capable de lire finalement les signes des temps. Jésus n'a pas parlé de changement climatique, mais il a parlé qu'il y aurait des inondations. Et moi, quand j'en parle, les gens me disent, « Oui, mais il y a toujours eu des inondations. » Mais jamais, jamais sur la planète au complet. Oui, Jésus nous a parlé qu'il y aurait des tremblements de terre. Les gens me disent, « Oui, il y a déjà eu. » Jamais sur la terre entière en même temps. La sécheresse, c'est partout, bien-aimé. Tous les cataclysmes, là, c'est partout, partout. Il y a 100 communes en France qui n'ont pas d'eau courante, là, qui n'ont pas d'eau. On m'a dit 17 ici, 17 en Belgique. Et c'est pas fini, bien-aimé. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais ce que Jésus a prédit, c'est en train tranquillement d'arriver, bien-aimé. Et Dieu nous demande de se lever en tant qu'Église, dernière Église, comme la première Église l'a fait, de se lever, de proclamer l'Évangile qui parle du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas inquiet, hein? Je suis pas inquiet, je sais où je m'en vais. Et j'essaie de travailler à faire en sorte que le plus grand nombre que Dieu m'utilise, pour que le plus grand nombre possible puisse faire partie de son royaume. Jésus va donc se mettre au même niveau que cette femme pour qu'elle comprenne bien le message qu'il veut non seulement qu'elle entende, mais qu'elle saisisse au plus profond d'elle-même afin qu'elle reçoive ce message. Regardons dans un deuxième temps l'exemple. Non, je vais passer tout de suite par-dessus. Alors, la première chose que nous devons faire, c'est d'aller rencontrer les gens qui n'ont pas encore entendu l'Évangile. Deuxièmement, nous devons être imaginatifs afin de pouvoir amener la personne à parler, bien-aimé. Vous pouvez être certain que pendant le temps que Jésus a conversé avec cette femme, ils ont parlé de plusieurs choses qui n'avaient rien à voir avec l'Évangile. Et il va, avec beaucoup de discernement et de sagesse, conduire cette personne au salut. Bien-aimé, quand vous regardez dans chapitre 4, le temps qu'il prend avec la Samaritaine, vous pensez que la conversation a duré 2 minutes? Hey! Nous avons, Jean a mis au chapitre 4 ce que nous avons besoin au niveau spirituel de comprendre. Mais Jésus, il a pris du temps avec cette femme-là. Hein? Il a pris du temps avec cette femme-là. Il a parlé de beaucoup de choses avec elle. Hein? Et pour arriver, finalement, être capable de la cerner. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser le fait qu'elle vient chercher de l'eau pour lui parler qu'elle a une autre eau à lui donner. Et là, il va commencer à l'intéresser aux choses religieuses. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire la façon de faire. Je vous ai parlé ici de celui qui amassait des bacs de cigares comme collection. Non? Ça, c'est la plus belle évangélisation que j'ai eue parce que j'ai rien eu à dire. C'est magnifique, hein? Quand tu n'as rien à dire, c'est une bénédiction du Seigneur. Et je vous avais dit que j'avais déjà été à l'école rencontrer la maîtresse de mes enfants, non? Non? Je te fais confiance. Bien, écoutez, si je l'ai déjà dit, je vais la répéter. Vous saurez comme ça si je vous avais menti la première fois. Si je dis le contraire, vous direz, bien, c'est un beau menteur, finalement. Il invente des histoires. OK. Alors, écoutez, mes deux filles, ils ont 10 mois et demi de différence, donc elles étaient dans la même classe. Et à un moment donné, bien, j'apprends qu'il y a un substitut qui la remplace, qui remplace leur maîtresse parce que la maîtresse vient d'accoucher, ainsi de suite. Alors, je suis convoqué, moi, 2 mois ou 3 mois après, eh bien, à aller rencontrer la maîtresse pour une rencontre parent-enfant. Alors, vous savez comment ça se passe, hein? Il y a des corridors, il y a des chaises, puis on attend. C'est aux 10 minutes, et puis on y va, 10 minutes au quart d'heure. Alors, moi, je suis le premier à passer, et je rentre dans la classe, et puis je commence à parler, mais tout de suite, je lui dis, bien, vu que je ne me mêle pas de mes affaires, je commence à la féliciter d'avoir eu un bébé, puis tout s'était bien passé, tout ça. Et moi, tout de suite, je pense au spirituel. Moi, j'ai toujours le spirituel dans ma tête. J'ai eu quatre enfants, et j'ai dit, moi, à chaque fois que j'ai vu une naissance, je les ai vus naître, eh bien, moi, ça me démontre, c'est un miracle pour moi, et c'est une preuve pour moi que Dieu existait. Ah, bien, si moi, je n'ai jamais vu ça comme ça... Je suis en train de la tester. Je dis, pourquoi vous avez des problèmes avec le croire en Dieu? Je veux pas vous insulter, hein, je vous pose une question. Hein. Et elle commence à me raconter un peu son parcours et tout ça. Et puis là, moi, je commence, mais là, elle commence à s'intéresser. Et là, moi, je me dis, j'ai 10 minutes, mais ça fait déjà une demi-heure que je suis avec elle, et je vois que ça murmure dans le passage. Alors, j'ai dit, écoutez... Et là, je saute encore sur l'occasion pour la récupérer. J'ai dit, je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Si jamais ça vous intéresse d'avoir d'autres informations, vous m'appelez. Allez, le mercredi. Et C'était le lundi, oui, la réunion des parents. Alors, je lui laisse mon numéro de téléphone et en milieu de la semaine, elle m'appelle pour me demander de me rencontrer. Alors, elle vient à la maison parce qu'elle dit, j'en ai parlé à mon mari, il voudrait vous parler. Alors, j'avais déjà raconté celle-là? OK, c'est bien. OK. Alors, 19h30 le soir, ils arrivent à la maison et là, je vois... son épouse s'assoit en face de moi, la grande table, donc on est face, et lui, il s'en vient directement se placer à côté de moi. Mais, quand je le vois rentrer, je ne sais pas qui, j'entends une petite voix qui me dit, « Ce soir, tu te tais, tu ne dis pas un mot. » Mais je le vois rentrer, vous savez, dans les dessins animés, là, les taureaux, là, vous voyez les taureaux, là, avec leurs cornes, il y a de la fumée qui sort par les oreilles, et par les narines, puis qui grattent à terre parce qu'ils vont vous charger. J'ai eu cette image-là. J'ai dit, donc, je vais obéir à la voix que j'ai entendue, quoi. Et il s'assoit. Et là, il y a les deux coudes comme ça, puis il attend juste que je parle. En réalité, il voulait me parler pour démolir les arguments que j'avais donnés à sa femme. Et là, je ne savais pas trop quoi dire. Je ne devais pas parler. Et il ne bouge pas. Il ne dit pas un mot. Alors, il s'appelait Yves. J'ai dit, Yves. J'ai dit, est-ce que tu as un hobby dans la vie, toi? Ah, il dit oui, il dit, moi, je suis collectionneur de bagues de cigares. Vous savez, moi, c'est... Hein? Bon. Mais là, je dois apprendre à le connaître pour être capable de dire quelque chose. Et là, écoutez, bien, c'était un passionné, comme nous devrions être, de collectionneur de bagues de cigares, de panneaux de bagues de cigares, de boîtes de cigares. Il faisait toute la Belgique, il prenait sa voiture, il faisait une partie de la France pour aller chercher des bagues de cigares. Moi, je ne savais pas, vous savez, on enlève, les collectionneurs, ils gardent la bague, hein? Il y a une bague, là. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est comme des collections de timbres. En fait, ils mettent un petit collant et puis on met ça dans une farde et on collectionne les bagues de cigares. Alors, je l'écoute. Il me parle, pendant 2 heures, il m'a parlé des bagues de cigares. Je n'ai pas dit un mot, je l'ai écouté, mais j'ai appris à le connaître. Et je me disais, si ce gars-là accepte le Seigneur et il reste passionné comme ça pour le Seigneur, tenez-vous bien verviers parce que ça va bouger. Et finalement, il me raconte toute son histoire. Il regarde l'heure, il dit, bon, ben, chérie, il dit 22 heures. Il dit, on travaille demain. Il dit, il serait temps de s'en aller. Ben, moi, je reste là. Je reste sur ma faim, moi. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai écouté. Monsieur a pris toute la place. Et puis, alors, j'essaie de le réchapper. Je dis, écoute, Yves, tu m'as tellement... Tu es tellement passionné pour ce que tu collectionnes. J'ai dit, écoute, j'aimerais bien voir ta collection de bagues de cigares. Ah, ben, il dit, pourquoi pas? Et si, ça me fait plaisir de savoir que ça t'intéresse. Ça me fait plaisir de... Il dit, écoute, je t'invite vendredi soir. OK. Alors, moi, j'ai ma Bible dans les mains. Et il habite un bel étage. Hein? Si vous appelez ça un bel étage, il y a un garage, une porte d'entrée, le garage en de côté. Mais la porte d'entrée puis le garage, il n'y avait plus de garage parce que c'était là qu'il faisait sa collection de bagues de cigares. C'était son salon de démonstration, quoi. Il y avait des panneaux sur, il y en avait partout. Et moi, je suis rentré avec ma Bible, je tenais ma Bible comme ça. Et on a pris quoi? Peut-être une demi-heure. Et là, on sort de ce salon-là et il m'invite à prendre un café. Vous savez ce qu'il me dit? Il dit, écoute, je t'invite à prendre un café parce que ce soir, t'es pas juste venu pour voir mes bagues de cigares, t'es venu aussi me parler de ça. J'avais jamais rien dit de ça, bien-aimé. Vous savez, quand vous prenez le temps d'écouter quelqu'un, vous gagnez le temps d'être écouté aussi à votre tour. Le vendredi soir, j'ai parlé aux deux du Seigneur, j'ai parlé de l'Évangile. Je pensais que c'était la dernière fois que je les verrais. Je leur ai expliqué le salut au complet de A à Z. J'ai dit, maintenant, la décision est de votre côté. Le dimanche matin, je suis derrière la chaire, je suis en train de préparer, je faisais la présidence et le sermon, ça arrivait ça. Alors, j'ai en train de regarder par quoi commencer, les cantiques et tout ça, ça marchait avec les... Et là, qui je vois rentrer? Le couple avec une poussette avec le bébé qui s'en vient assister au culte le dimanche matin. Là, on amène le message, je fais un appel, les deux se convertissent. Le mardi matin, je suis en train de faire... On donnait des colis. Donc, je suis dans mon bureau. Qui je vois arriver? Je vois arriver ce Yves, qui s'appelait Yves. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu ne travailles pas? Oui. Dis-moi, depuis que j'ai pris une décision pour le Seigneur, c'est terminé, je ne travaille plus pour le monde. J'ai donné ma démission. Et j'ai dit à ta femme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne le sait pas encore, je vais y en parler ce soir. Purée. Hey. Des fois, on manque de discernement. Hein? Mais lui... Hein? Tout de suite, il s'est investi dans le Seigneur, ce gars-là. Aïe, 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 aïe. On allait chercher des meubles. Vous savez, on avait un magasin de meubles, on vendait des meubles et tout ça. Il a embarqué sur le camion, il n'y avait rien de trop beau. Ben oui, il pouvait presque transporter un poêle dans ses bras, lui. Il n'y avait rien de trop beau. Allez, il travaillait 7 jours par semaine. Et au bout de... Et vous savez ce qu'il a fait avec... Et vous savez ce qu'il a fait quand il s'est converti? Sa collection de bacs de cigares, les années qu'il a passé à en ramasser, là. Il l'a vendu, ça, il a donné 25 000 euros. Le 25 000 euros, il l'a pris et il l'a donné à une œuvre chrétienne. Oui. Il n'y a plus rien qui comptait pour les gens du monde, pour lui. On donnait de la nourriture, il a commencé à faire les GB à l'époque et tout ça. Mes amis, j'étais le seul, moi, dans, au niveau de la banque alimentaire dans ma ville, qui donnait de la viande. Le GB, là, ça, je recevais 2-3 caddies de viande là, qui était due pour la journée même. 2-3 caddies, et j'avais des congés. J'avais 6 congés. Et les gens venaient chez moi parce qu'ils disaient, vous êtes la seule banque alimentaire qui donnait de la viande. Alors, on pensait que j'étais généreux. Ben non, je devais vider mes congés, puisque je savais qu'il y a encore trois autres caddies qui rentreraient avec de la viande. Mais cet homme-là, Dieu m'a béni à travers cet homme-là. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a parti une librairie chrétienne. Et avec sa librairie chrétienne, il a fait exactement ce qu'il faisait quand il collectionnait les bacs de cigares. Il allait d'un culte à l'autre, en Belgique, en France. Il montait une table de livres et puis il faisait la promotion de ses livres. Gloire à Dieu, bien-aimé, gloire à Dieu. Vous savez pourquoi, comment il est né au Seigneur? Parce que j'ai su me taire quand le Seigneur m'a demandé de me taire, bien-aimé. Et Jésus, là, c'est pour ça qu'on n'a pas tout le contenu de la conversation. Je suis convaincu que Jésus a pris le temps de prendre un temps de la connaître. Il savait qu'elle avait eu 5 maris. Il savait qu'elle était pas heureuse. Il savait qu'elle était isolée dans son village. Peut-être que parmi les 5 maris, elle en avait peut-être volé deux à des femmes qui étaient déjà mariées. Elle était complètement isolée, cette femme-là. Désintéressée de la vie. Elle n'en avait rien à cirer de ce que les gens pensaient. Mais par contre, il y en avait un qui était intéressé à elle, et c'était Jésus. Et bien aimé, il faut voir les gens à l'extérieur comme Jésus les voyait. Il faut être des passionnés comme Jésus l'était. Dans son 100% homme, Jésus a été tenté en toutes choses, mais n'a jamais péché. Bien aimé, la Bible est claire, il n'y a rien que Dieu nous envoie comme épreuve, comme tentation, qui sont au-delà de nos forces. Et non seulement elles ne sont pas au-delà de nos forces, mais Dieu a déjà la solution pour nous en sortir. Dieu, comme notre frère nous a dit dans sa présidence tantôt, Dieu est là pour nous former. Bien-aimé, Dieu ne nous a jamais promis qu'en l'acceptant, ce serait le paradis sur la terre. Au contraire, il a dit, heureux êtes-vous si vous êtes persécutés parce que vous êtes mes enfants. C'est ça, ça fait partie du sermon sur la montagne, ça, bien-aimé. Heureux êtes-vous si on vous persécute parce que vous faites partie du royaume. Alors, la première chose que nous devons faire, c'est aller rencontrer les gens qui n'ont pas encore entendu l'Évangile comme Jésus. Deuxièmement, nous devons être imaginatifs afin de pouvoir amener la personne à parler. Et je vais vous donner un exemple. J'ai été opéré, sur la joue pour un mélanome il y a trois semaines. Et finalement, on m'a proposé une chambre privée ou une chambre semi-privée. Finalement, je me suis dit, c'est une semi-privée parce que s'il y a quelqu'un dans la chambre, je pourrais peut-être témoigner. Et effectivement, il y avait un gars dans la chambre déjà, 83 ans, qui avait un orteil qui commençait à noircir et qui devait être opéré pour se faire passer un bypass. On partait d'assez haut parce qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait en bas au niveau circulation sanguine. Alors lui, ce qu'il craignait, c'est qu'on lui coupe la jambe. Alors, moi, je ne me mêle pas de mes affaires. Bien, j'ai posé la question pourquoi il était là, bien sûr. Hein? Il n'était quand même pas couché dans son lit parce qu'il était en bonne santé. Alors, il m'a expliqué tout ça. Et il m'a dit, écoutez, j'ai dit à mes enfants que si ça ne réussissait pas, eh bien, qu'on devait me couper la jambe, eh bien, moi, c'était tout de suite l'euthanasie. Et moi, je pense spirituel, bien aimé. Moi, je ne crois pas en l'euthanasie, je crois en la résurrection des morts. Alors, j'ai dit... J'ai dit, est-ce que je peux vous parler, vous tutoyer? Il me dit, oui, oui. J'ai dit, c'est quoi mon prénom? Il dit, Marcel. J'ai dit, Marcel. J'ai dit, est-ce que tu crois qu'il y a une vie après la mort? Résurrection, c'est pas clair. Hein? C'est très évangélique. Est-ce que tu crois qu'il y a une vie après la mort? Ah, là, il me regarde. Eh bien, Mais vous savez, il faut le dire sur un ton convaincant. Moi, je crois qu'il y a une résurrection. Moi, je crois que Dieu va me ramener de la même manière qu'il a ramené Jésus-Christ dans la mort à la vie, qu'un jour, il va me ramener de la mort à la vie, quoi. Mais il faut être convaincant quand on parle aux gens. Il y a des gens, des fois, je les ai regardés évangéliser, mais ils ont l'air des directeurs de pompes funèbres, quoi. Ils ont l'air deux fois plus malheureux que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, quoi. Mais on a une joie, comme notre soeur, notre frère nous a parlé tantôt, on a une joie dans notre cœur que Dieu a déposée, qui ne vient pas de l'être humain, mais qui vient d'en haut. J'ai dit, écoute bien, Marcel, moi, je veux te dire quelque chose. Moi, je crois qu'il y a non seulement qu'il y a une vie après la mort, mais moi, je crois qu'à la fin des temps, Dieu va me ramener de la mort à la vie, comme il a fait pour Jésus. Et là, j'ai dit, j'en lance pas trop. Première approche. Eh bien, savez-vous qui m'a tenu réveillé toute la nuit, lui? Ouais. Jacques, tu dors? Est-ce que tu dors? Ben non, tu viens de me réveiller. Écoute, j'ai plus d'eau dans ma bouteille, j'ai soif. Jésus n'aurait pas fait ça? Ben voyons. Écoutez, si je suis pas capable de faire ce que le monde font, ben je suis mis de me taire, quoi. Et il m'a tenu comme ça, et j'ai dit, écoute, quand on a eu terminé, parce que moi j'étais une journée et demie à l'hôpital, lui a dû rester, mais son opération avait réussi, gloire à Dieu. La circulation sanguine a commencé à reprendre, son orteil a commencé lentement à changer de couleur, sa grosse orteil. Je lui ai dit, écoute Marcel, moi j'ai vraiment passé un bon moment avec toi depuis un jour et demi. J'essaie de le récupérer, bien-aimé. Et puis, ça me permet de voir qu'est-ce qu'il pense de moi. J'ai dit, écoute, j'aimerais ça. Si tu veux, est-ce que tu aimerais ça me donner ton numéro de téléphone? J'ai dit, on pourrait s'appeler, prendre des nouvelles, et ainsi de suite. Ah, ben, il dit, certain, hein. Il dit, ça me fait plaisir, je ne demande que ça. Ben, j'ai dit, est-ce que je pourrais avoir le tien? Au cas qu'il oublierait de m'appeler. J'ai dit, ben, est-ce que tu pourrais me donner le tien? Et ça, c'est intéressant, parce que c'est ça, être pêcheur d'hommes, bien-aimé. Vous lancez la ligne, hein? Vous lancez la ligne! Et des fois ça accroche pas, mais... Et là, il me donne son numéro. Ça fait trois fois. Deux fois qu'il m'a appelé, une fois que je l'appelle. Et la prochaine fois, je vais aller avec mon épouse, parce qu'il est avec une dame de 89 ans. Et on va prendre un temps ensemble. Bien-aimé, Jésus va d'abord prendre l'initiative de passer à l'offensive. Il va prendre l'initiative d'envoyer ses disciples aussi pour ne pas être dérangé. Il savait que c'était des Juifs. Il savait que les Juifs ne parlaient pas samaritain. Il savait que les disciples auraient peut-être empêché de parler aux Samaritains, de parler avec la Samaritaine. Bien-aimés, je vous ai parlé des pêcheurs d'âmes. Jésus a parlé à Pierre et André et aux autres apôtres ce qu'ils étaient en tant que pêcheurs d'âmes. Bien-aimé, lorsqu'un pêcheur... Moi, j'ai cette mentalité de pêcheur d'âme. Bien-aimé, lorsqu'un pêcheur veut attraper un poisson, il doit prendre la décision d'aller là où se trouve le poisson. S'il attend chez lui que le poisson vienne frapper à sa porte pour se laisser attraper et se faire manger, il risque d'attendre très longtemps. Et une des grandes qualités que doit posséder un pêcheur, c'est la patience. Il en est de même avec vous, il en est de même avec moi, bien-aimé. Nous devons nous armer de patience lorsque nous allons à la pêche pour attraper ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut surtout user l'imagination. Mais oser aborder les gens. Oser l'aborder les gens. Je vous demande de prier pour l'Église de Lessines, l'Assemblée de Lessines, qui ne se souvient pas de la dernière fois qu'elle est sortie pour aller transmettre l'Évangile à l'extérieur. Mais le 23 et le 24 septembre prochain, toute l'Église, la petite poignée qui reste dans cette Église, à l'unanimité, a pris la décision d'aller à l'extérieur pour aller rencontrer les gens de leur commune et leur donner une invitation pour assister à une conférence et pouvoir finalement qu'ils puissent entendre l'Évangile. Mais les gens auront la liberté de l'Église aussi de partager l'Évangile avec ces gens-là. Bien-aimés, on va arrêter là ce matin, mais ce qui est important pour nous, c'est que rappelons-nous que le sang de Jésus peut effacer n'importe quel péché, mais qu'il ne peut pardonner une seule excuse. Et que Dieu peut transformer un cœur souillé par le péché en chef-d'œuvre de grâce. Pourtant, Dieu aime chacun de nous comme s'il n'y avait qu'un de nous à aimer, bien-aimé. Jésus n'a pas besoin d'avocat pour défendre sa cause. Ce qu'il cherche, c'est des témoins. Bien-aimé, dans un premier temps, Jésus est allé rencontrer cette Samaritaine. Dans un deuxième temps, il a pris l'initiative de commencer une conversation avec celle-ci. Et voyant qu'elle commençait à poser des questions, il va maintenant lui parler de la grâce de Dieu qui non seulement sauve le pécheur du jugement à venir, mais le délivre aussi de l'esclavage du péché. Bien-aimés, Jésus est allé sur son terrain, elle voulait de l'eau, et il lui a donné une autre sorte d'eau. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de parler avec les gens, sans connaître leurs besoins. Vous savez, moi, quand je fais, je vous ai parlé de l'effort d'évangélisation, je termine avec ça. Hein. Je vous parle de l'effort d'évangélisation à Décines. Dans mon église où j'étais pasteur pendant 20 ans, on faisait un effort d'évangélisation à chaque année et on a pratiquement une seule année qu'on n'a pas eu de conversion, mais toutes les autres années, Dieu nous a bénis. Dieu nous a vraiment richement bénis. On prenait une semaine complète à vivre ensemble la vie de l'église primitive. On se réunissait toute la journée ensemble. Le matin, on sortait 2 heures. L'après-midi, on sortait 2 heures. Et le soir, c'était repos pour tout le monde. Mais ce qui est important dans tout ça, ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas imaginer l'angoisse que les gens vivent à l'extérieur. Moi, j'ai fait du porte-à-porte. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent faire du porte-à-porte. Nous, on en a fait, c'est à peu près 15 ans. Hein? 15 ans qu'on a fait du porte-à-porte. Il y en a d'autres qui allaient dans les parcs. Il y en a d'autres qui rencontraient les gens, qui interpellaient les gens, qui distribuaient finalement les flyers sur la rue. Mais dans le porte-à-porte, là, moi, c'était ma force. Moi, j'aimais bien. D'abord, je dois, pour vous consoler, en 15 ans, jamais personne a pensé que j'étais un témoin de Jéhovah. Il y a une façon de se présenter à la porte, c'est de simplement dire qu'on est déjà qu'on est chrétien. Voilà. Ça, c'est important. Nous, on se présentait comme étant chrétiens. Bonjour, madame, nous sommes des chrétiens de l'Église baptiste de Dlin, nous sommes vos voisins. Et encore une fois, comme à chaque année, nous faisons une conférence dont le titre est cette année-là, c'était Êtes-vous une bonne personne? Et on donne le flyers. Et les gens sont libres de venir ou pas. Et moi, pour essayer de récupérer les gens, qu'est-ce que je faisais? Je disais, écoutez, je ne vais pas vous embarrasser, vous êtes déjà assez gentil d'avoir pris le flyer. J'aimerais vous poser une question avant de partir. Elle me disait, oui. Je disais, écoutez, c'est pour mes statistiques personnelles. Quelle est la plus grande souffrance, d'après vous, qu'une personne peut vivre dans sa vie? Bien aimé, cette question-là, elle est d'ordre général. Mais la réponse, vous pouvez être certain qu'elle va être d'ordre personnel. Avant même qu'elle me réponde, plusieurs fois j'ai eu ça dans les têtes, dans le porte-à-porte, avant même que la personne réponde, ça commence à couler. Elle va me parler de sa souffrance à elle qu'elle a vécue, bien-aimée. Et elle me dit, il y en a qui me disaient, ben oui, la trahison. Ah, j'ai dit, la trahison, pourquoi vous dites la trahison? Et ça coule. Parce que vous mariez quelqu'un qui, devant l'autel, vous dit qu'il va rester fidèle. Vous restez fidèle toute votre vie et vous apercevez finalement qu'il est parti avec une maîtresse. Mais toutes sortes de choses comme ça, bien-aimés. Et ça vous ouvre la porte pour, si on parle de souffrance, de parler de Jésus. Il s'agit d'être imaginatif, il s'agit d'oser déranger les gens. Et quand les gens disaient, ils me disaient quelque chose, je voyais que ça... Il faut, dans le livre des Proverbes, l'auteur des Proverbes dit, il faut beaucoup de sagesse et de discernement pour amener des âmes à Christ. Et ça, c'est, il faut être capable d'avoir le discernement, de dire, bon, mais je pense qu'elle en a eu sa dose aujourd'hui, j'arrête. Et pour une prochaine fois, l'année prochaine, ben, je referai à la même porte et peut-être qu'elle voudra poursuivre. Bien-aimé, Dieu veut faire des choses extraordinaires à travers des gens ordinaires. Est-ce que vous qui y croyez? Et c'est vous que Dieu a choisi. Bien-aimé, si Dieu a su m'utiliser avec la vie que j'ai menée, à combien plus forte raison il peut faire encore de plus grands miracles à travers vous qu'il a pu en faire à travers moi, bien-aimé. J'ai des témoignages à amener. Moi, ce n'est pas des témoignages que j'ai copiés à droite et à gauche. J'ai des témoignages à apporter parce que j'ai fait ce que le Seigneur Jésus m'a demandé de faire. Va à l'extérieur, va parler aux gens. Ils sont aussi malheureux que toi, Jacques, avant que tu me connaisses. Et ce n'est pas parce qu'on est né dans l'Église qu'on n'a pas de témoignage à donner. Vous avez tous un témoignage à donner. Parce que vous êtes tous nés pécheurs. Et que vous avez dit tous naître de nouveau pour être capable de passer des ténèbres à la lumière, bien-aimés. Vous avez tous un témoignage à donner. Oui. Mais il s'agit d'avoir la même passion, la même compassion que Jésus avait à l'extérieur. Rappelez-vous, vous êtes les représentants de Jésus sur cette terre. Partagez l'Évangile. Partagez l'Évangile. Parlez de tout et de rien au début. Je vous ai déjà dit ici, ça fait plusieurs fois, je l'ai dit même plusieurs fois. Le premier mot de l'Évangile, quand on rencontre des gens, c'est de dire bonjour. Bonjour. Moi, je fais du jogging le matin, je vous l'ai dit. Je croisais des gens, je leur dis bonjour. Ils me disent rien, c'est pas grave. Moi, je cours 3 à 4 fois par semaine. Je voyais la même personne qui promenait son chien. Bonjour, bonjour. Finalement, il me dit bonjour. Et la fois d'après, c'est pas oublié. La fois d'après, elle promène son chien. Je m'arrête pour savoir quelle race de chien que c'est. Je pose des questions. Ne me mêle pas de mes affaires, bien-aimé. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai été faite comme ça. Alors, je pose des questions. Quel chien? Ah non, c'est une chienne. Ah, excusez, je l'ai pas remarqué. Et là, on parle, mais il y a des... Tranquillement, la familiarité s'installe. Tranquillement, bien-aimé. Oui. Et à un moment donné, vous habitez dans la commune ou à l'extérieur? Oui. Ah, ben non, ben j'habite sur telle rue. Elle ne me donne pas son adresse, mais elle habite sur telle rue. Et à un moment donné, je cours, ben je vois quelle porte qu'elle prend un autre jour, et je la vois rentrer. Bien-aimé, c'est... Il faut être imaginatif. Il faut oser. Comme le Seigneur Jésus, bien-aimé. Si vous êtes ici, là, peut-être en tant que dernière église, c'est parce que la première église primitive, la première, a osé parler aux gens à Jérusalem. A osé parler à la diaspora quand il y a eu un décret par l'empereur qui a fait en sorte que c'était la première persécution, qui a fait en sorte que l'Église s'est répandue dans l'Empire romain. Bien-aimés, vous êtes la continuation de l'Église primitive. Vous avez peut-être pris des habitudes qui sont mondaines. Il s'agit de le connaître. Si c'est le cas, confessez ça au Seigneur et demandez-lui qu'il vous donne ses habitudes à lui pour voir le monde, pour entendre le monde et de parler comme Jésus. De voir le monde et de parler au monde comme Jésus parlait, mais aussi de voir le monde comme Jésus le voyait. Que le Seigneur vous bénisse. Désolé d'avoir pris quelques minutes de plus, mais... Merci pour votre patience, merci pour votre présence ce matin, et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Et on regardera la deuxième partie qui est moins, qui va être peut-être plus pratique, avoir plus d'exemples. Mais et si jamais je sais que vous avez un comité d'évangélisation ici, si jamais ben vous voulez que je participe avec vous, ça me fera plaisir d'aller à l'extérieur et pouvoir partager l'Évangile avec vous. Ça me fera vraiment plaisir. Pour qu'on se réjouisse ensemble, quoi. Pour qu'on se réjouisse ensemble de partager ce qui fait notre espérance vivante, bien-aimée. Amen.